Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Si chacun d'entre nous a lu ou se souvient d'avoir étudié les lettres persanes de Montesquieu, Canal Academy vous invite dans cette émission à découvrir les lettres chinoises du marquis de Boyer d'Argens, lequel a vécu de 1704 à 1771. Il était très connu au XVIIIe siècle, trop peu connu aujourd'hui. Il imagine lui aussi des voyageurs, chinois en l'occurrence, qui débarquent en France. Mais il a ceci de particulier qu'il met en valeur la civilisation de ces voyageurs chinois en s'informant sur l'information diffusée en Europe par les jésuites alors établis en Chine. Et c'est donc avec la spécialiste à la fois de la littérature des grands siècles XVIIe et XVIIIe et de l'histoire des jésuites en Chine que je vous invite à découvrir ce chef-d'œuvre de Jean-Baptiste de Boyer. Mon invitée, Madame Lou Van Fun, est chinoise, doctoresse lettres, ayant consacré sa thèse de doctorat au marquis de Boyer d'Argens, traductrice, elle enseigne la littérature française et le chinois à Paris. Elle a présenté, annoté et commenté ses lettres chinoises de Boyer d'Argens, parues aux éditions Des Clés de Prouvaire. Bonjour madame.
Bonjour madame.
Merci d'être venue jusqu'au studio de Canal Academy, qui n'est pas très loin puisque vous habitez Paris. Ces lettres chinoises ont-elles connu à leur époque un grand succès d'édition? Ont-elles été rééditées plusieurs fois? Quel était leur rayonnement à l'époque au XVIIIe?
Effectivement, pour parler du rayonnement des lettres chinoises, il faut tout d'abord mentionner la première réédition des lettres juives en date de l'année 1735. Parce que c'est grâce à ces lettres juives que d'Argens est devenu un écrivain célèbre, très très célèbre même dans l'Europe tout entière. Il a eu beaucoup d'éditions différentes. Il est très reconnu en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, et ces lettres juives ont été condamnées par Rome et des grands moralistes français, voilà. Et en fait, suite au succès des lettres juives, il continue à écrire une série de lettres. Alors, ces lettres qui paraissaient tous les lundis et jeudis, enfin, deux fois par semaine, c'est comme une sorte de gazette. Donc, la deuxième série, après les lettres juives, c'est les lettres kabbalistiques. La troisième série, c'est les lettres chinoises qui commencent en...
On en vient aux lettres chinoises quand même à un moment donné. À partir donc de quelle date peut-on considérer qu'ils les rédigent ou qu'elles sont parues? 1730, 1700...
Alors, les premières lettres juives ont paru 1735 et les premières lettres chinoises ont paru 1739, vers les années 40.
Alors, je l'ai dit, il met des personnages chinois. Ce sont deux personnages qui échangent une correspondance, bien sûr. On va revenir tout à l'heure au contenu de ces lettres et à ce que l'auteur a voulu démontrer. Mais je voudrais d'abord que l'on situe un peu cet auteur qui est peu connu finalement en France. Quelques mots sur sa vie alors. Où est-il né?
Il est né à Aix-en-Provence, d'une grande famille catholique, parlementaire. Il était destiné à devenir militaire, or il n'a pas pu, il a eu une chute. On ne sait pas pourquoi il est parti en Hollande. Il a mentionné l'existence d'une femme. À cause de cette femme, il est parti en Hollande. Donc, il est devenu écrivain en Hollande.
En Hollande. Au fond, c'est un écrivain français qui n'a jamais écrit en France.
Non. Il a commencé à écrire en Hollande. Ensuite, il est parti à Berlin. Donc, il n'a jamais publié, enfin, en tant qu'écrivain français.
Et alors, il a été aussi invité par Frédéric II à la cour de Prusse, mais bien avant Voltaire, finalement.
Oui.
Et il a fait donc sa carrière à Berlin.
Je pense que sa première carrière était à Hollande. Enfin, disons, sa carrière académique, c'est à Berlin. Et c'était toute sa carrière, oui.
À la cour de Prusse, je suppose qu'il est reçu. Est-ce qu'il est seulement invité ou est-ce qu'il va y rester et faire une partie de sa vie en Prusse?
Il restait pendant plus de 25 ans.
Plus de 25 ans, ah oui.
Oui,
à quel poste?
Il était à la fois chambellan de Frédéric II et directeur de classe des belles lettres de l'Académie de Berlin, qui a été créée sur le demande de Frédéric II par Maupertuis, philosophe français.
Est-ce que Boyer d'Argens était en correspondance avec quelques grands écrivains français?
En fait, D'Argens avait une correspondance assez suivie lors de la rédaction des lettres juives. Donc, la correspondance philosophique. Les lettres anglaises de Voltaire étaient son modèle. Et or, D'Argens est un écrivain solitaire. Il était en exil. Effectivement, on ne voyait pas beaucoup de traces dans ses lettres. On ne sait pas s'il a vraiment eu des amis, des écrivains français célèbres. Il se liait d'amitié plutôt avec les protestants, les théologiens, les érudits de Hollande, aussi de Berlin.
Donc, il est déjà européen. Dans une note qui accompagne la toute première lettre que vous avez publiée, car les notes, je dois le dire, dans ce livre sont toutes historiques et toutes enrichissantes, c'est un véritable livre d'histoire que de lire les notes de ce livre, on lit, c'est la page 60, que l'Académie des sciences, qui, je le rappelle, a été fondée en 1666 par Colbert, a joué un rôle dans les relations entre les Chinois et les Européens en envoyant des jésuites à la cour de Pékin. Donc, c'était déjà en 1685. Mais là, on est à la fin du XVIIe siècle. Ça fait donc déjà longtemps que les jésuites sont en Chine. Comment l'information venait-elle entre la Chine et l'Europe? Comment Boyer d'Argens voyait-il la Chine, au fond?
Bien sûr, à l'époque de Louis XIV, il y a des jésuites, notamment les jésuites français, qui ont été envoyés à la cour impériale de la Chine. Mais je pense que cette tradition remonte même jusqu'à Matteo Ricci, c'est au début du XVIIe siècle. Mais à l'époque où D'Argens écrivait, c'est la mode. Il y a ce qu'on appelle, comme Étienne avait écrit, l'Europe chinoise. Il y a un phénomène de mode extraordinaire en Europe. Mais surtout, lorsqu'il est arrivé, il s'est installé à Berlin, il avait vraiment écrit les lettres chinoises pour susciter l'intérêt de Frédéric II. Il y a une lettre importante dans ces lettres chinoises, c'est qu'il a parlé du couronnement de Frédéric II. Or, il n'a pas parlé de ça dans d'autres lettres. D'autre chose, c'est qu'il y a un échange très suivi entre les académies européennes. Il y a des informations qui circulent sur la Chine. On peut aussi s'étonner par le fait qu'on trouve encore aujourd'hui dans les archives de la Bibliothèque nationale beaucoup de livres en chinois qui sont arrivés en France à cette époque-là.
Oui, c'est très intéressant. Le XVIIIe siècle, donc, on le sait, c'est le siècle des Lumières. Boyer d'Argens peut-il être considéré comme un humaniste, un matérialiste, un libertin? Quelle est sa pensée philosophique? Quelle est sa position par rapport à la science? Quelle est sa position par rapport à la religion?
Nous pouvons considérer d'Argens comme un héritier direct de Montaigne, des penseurs sceptiques du XVIIe siècle qui sont héritier de Diogène Laërce, hein, comme la mode de Lavoisier. Il y a toute une tradition de libertinage érudit. Le libertinage de D'Argens, si on peut dire le libertinage, c'est l'ouverture d'esprit sur le plan intellectuel. C'est cette exploitation de l'érudition sur laquelle il insiste tout au long de sa vie. C'est cette exigence de l'érudition. Avec cette exigence, on peut le qualifier de vrai historien.
Est-ce qu'il a une position par rapport à Descartes, par exemple? Qu'est-ce qu'il en pense?
Il a une position très nuancée vis-à-vis de la pensée philosophique de l'époque. C'est que D'Argens, en tant qu'historien de la pensée, historien de l'esprit humain, le terme était employé par lui-même, et il est vraiment sensible à la particularité de chaque penseur. Il est sensible au langage, la manière d'exprimer de chaque philosophe. Chez Descartes, il admire en tant qu'un grand métaphysicien, un héritier de Platon, mais il voit en même temps chez Descartes un danger de l'athéisme.
Le cogito pourrait aller jusqu'à l'athéisme, pourquoi?
Parce que c'est faire l'abstraction de la substance de la pensée elle-même. Ce qui fait que D'Argens témoigne vraiment d'une grande intelligence quand il cite Gassendi, la position de Gassendi face à Descartes. Parce que pour D'Argens, Gassendi a compris la faiblesse de Descartes.
Quelles sont ses convictions profondes par rapport à la science?
Oui, c'est très très important pour les écrivains de cette époque, parce que c'est une époque où ce qu'on appelle les philosophes cherchent à identifier leur écriture à une intelligence qui n'est pas seulement une intelligence religieuse. Donc, D'Argens, il est très sensible à la physique de Newton, mais surtout, il a une réserve vis-à-vis de l'excès qu'on accorde, l'excès de l'importance qu'on accorde à la science. Il a une prudence, une très grande prudence. Il cherche toujours un équilibre entre la science et la morale.
Avant d'aborder le contenu de ces lettres chinoises de Boyer d'Argens, on marque une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans notre studio en compagnie de Madame Lou Van Fen, qui a donc traduit ces lettres chinoises de Boyer d'Argens et qui sont parues chez Desclés de Brouwer.
La figure de Napoléon Bonaparte dans l'œuvre de Sacha Guitry. Jean Tullard, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous donne les codes de représentation de ce personnage historique dans l'œuvre du cinéaste au cours d'une émission Carrefour des Arts. Téléchargez dès maintenant cette émission sur canalacademy.com.
Retour dans notre studio pour continuer à parler de Boyer d'Argens et de ses lettres chinoises. Au fond, madame, vous ne m'avez pas dit combien il y avait de lettres. J'ai oublié de vous poser cette question. Combien a-t-il écrit de lettres chinoises?
Lettres chinoises, au total, il y a vers 165.
165 et qui sont parus au rythme de 2 par semaine. Ça a duré plusieurs années, alors?
Oui, 2 ou 3 ans, oui.
2 ou 3 ans. Et puis les lettres juives dont vous avez parlé aussi.
Oui.
À peu près la même quantité. C'était vraiment un grand écrivain. Il y a donc dans ses lettres 2 personnages chinois qui échangent. C'est un style littéraire qu'il a adopté. C'est une mode, cette mode d'imaginer des personnages étrangers qui échangent entre eux.
Oui, c'est à la mode. On connaît lettres persanes, lettres portugaises. Crébillon fils a fait lettres japonaises. Donc c'est tout à fait une mode de l'époque. D'Argens, il a même à la fois de l'humour et une vision théorique quand il écrit les lettres chinoises, parce qu'il est parti au départ de la tradition judaïque, lettres juives. Ensuite, il a écrit lettres kabbalistiques où il condamne la tradition chrétienne. Et ensuite, il va vers la Chine. Donc, il y a une logique.
Alors, lui-même, il a décrit, au fond, ses personnages. C'est dans l'une de ses lettres. Et je vais lire ce qu'il en décrit. « Il faut regarder mes Chinois comme des hommes éclairés. Ce sont des lettrés. » Amis des missionnaires et des jésuites, non en qualité de chrétiens mais en qualité de philosophes, qui ont voulu s'instruire dans les sciences qui fleurissent en Europe. Ils ont donc appris la philosophie, la théologie, etc. Et je ne leur fais rien faire en cela qu'un nombre de Chinois, de Tonkinois et de Siamois ne fissent journellement. Je suis bien certain que ceux qui m'ont critiqué ne savaient pas qu'on soutient des thèses de théologie à Pékin et au Siam, tout comme en Sorbonne. Voici de quoi fermer la bouche à tous ceux qui se figurent que j'ai rendu mes voyageurs chinois trop savants. Donc ce sont véritablement des lettrés qu'il fait parler. Alors quel est son objectif dans ces lettres? Que veut-il démontrer? Sur quel terrain fait-il ces démonstrations? La philosophie, la théologie, la science, l'histoire?
Je trouve que la présentation de ces figures fictives est extrêmement originale parce que, à la fois, c'est sur le plan scientifique et sur le plan littéraire et philosophique. Parce qu'en fait, ce sont des figures fictives. Donc, ce sont des hypothèses. D'Argens, il n'est pas comme Montesquieu, il ne s'intéresse pas du tout à rendre vivant.
Oui, ce n'est pas anecdotique chez
voilà,
lui.
Voilà, c'est lui, ce n'est pas quelque chose d'exotique. Ce sont des philosophes qui parlent parfaitement la langue française, maîtrisent bien le grec, le latin. C'est une théorie, parce que peut-être aujourd'hui, personne n'atteint ça. Personne ne fait un Chinois qui parle couramment français, mais qui aussi maîtrise parfaitement la langue latine et grecque. Mais c'est sa théorie, et je pense que ça c'est non seulement une théorie scientifique, c'est aussi une théorie qui montre que l'homme, l'esprit et l'humain est perfectible. La langue, c'est un acquis, c'est pas seulement la nature, on n'est pas constamment contraint par notre langue maternelle. Ça c'est vraiment original et très très moderne. Autre part, je pense qu'à travers ces figures des philosophes chinois, nous pouvons quand même constater une image du père Matteo Ricci. Parce que Matteo Ricci, c'est quelqu'un qui est arrivé à la cour impériale de la Chine et qui a parlé couramment chinois, qui écrivait les poèmes chinois et qui était aussi à la fois un scientifique. Voilà. Je pense qu'il y a un modèle pensé qui s'inspire justement des jésuites missionnaires, mais il avait créé son modèle, ils ne sont pas religieux, mais les amis des missionnaires.
Alors, dans son ouvrage, Boyer d'Argens évoque d'ailleurs plusieurs grandes figures de fondateurs de religions ou de mouvements religieux, comme Lao Tzu, le père du taoïsme, mais aussi un portrait de Saint Ignace, fondateur de la Compagnie de Jésus et donc père des jésuites, portrait qui est presque caricatural. Il est d'un style très satirique. Je vous propose d'en écouter un petit passage et après vous allez le commenter.
Ignace, dont tu as si souvent entendu parler aux jésuites et dont tu as lu la vie écrite par un de ses disciples, bien éloigné de la vérité et de ce qu'on en dit ici, est le grand patriarche des molinistes. C'est ainsi qu'on appelle en France les jésuites et tous les autres religieux et séculiers qui leur sont fortement attachés. Cet homme naquit en Espagne. Il passa au service les premières années de sa vie. Ayant été blessé au siège de la citadelle de Pamploune d'un coup de fusil qui lui avait cassé l'os de la jambe, sa blessure fut mal pansée. Une grosseur causée par un os qui avançait trop rendait sa jambe difforme. Ignace, pour dissiper sa tristesse et les chagrins de se voir boiteux, demanda quelques livres. Par hasard, on lui en donna un qui contenait l'histoire des principaux saints européens. Ce livre, rempli de prodiges et d'histoires fabuleuses, échauffa son imagination. Tout à coup, Ignace ne pense plus à sa jambe. Le souvenir de sa blessure s'effaça pour ainsi dire de sa mémoire. Les actions fabuleuses des saints européens l'occupèrent entièrement. Tout à coup, il se livra en public à son imagination déréglée et se mit à courir les champs. Il monta sur une mule malgré les remontrances de son frère, se déroba de chez lui et prit la route d'un monastère. Ayant rencontré sur le chemin un mort mahométan, il voulut l'obliger à se battre ou à confesser qu'il se trompait en suivant la religion. Le mort ne voulut faire ni l'un ni l'autre et pour se débarrasser d'un pareil fou, il s'enfuit. Il semblait que cette première action d'Ignace fût un augure de ce qu'il ferait un jour et des principes sur lesquels il établirait les opinions qu'il ferait recevoir à ses sectateurs. La violence et la contrainte sont les deux premières maximes des jésuites. Oh, qu'ils sont différents en Europe, cher Inchechan, de ce qu'ils veulent paraître en Chine. Les extravagances d'Ignace étaient plus affectées qu'elles n'étaient naturelles. Sous son zèle outré pour la dévotion, il couvrait une ambition démesurée. Et quoique son esprit eût d'abord été altéré, soit par le changement de vie, soit parce qu'il avait souffert dans sa maladie, dans la suite, la vanité et le désir d'être chef d'une secte respectable furent les seuls motifs qui le conduisirent. Dès son voyage à Paris, il avait commencé d'avoir quelques disciples. Le nombre en augmenta dans la suite considérablement. Il leur imposa pour première loi de vouer au souverain pontife romain une obéissance aveugle et de se soumettre entièrement aux ordres de leur chef, c'est-à-dire aux siens et à ceux des personnes qui lui succéderaient dans la suite. Les deux points étaient aussi essentiels que politiques. Par le premier, il assurait éternellement à ses disciples la protection de la cour de Rome. Par le second, il établissait le bon ordre dans la compagnie. C'est ainsi qu'il nomma cette troupe de gens qu'on appelle aujourd'hui la Société des Jésuites.
Là, c'est un style un peu satirique. On aurait presque l'impression qu'en décrivant Saint-Ignace, il se moque de lui. Ou quel est son objectif en donnant un tel portrait?
D'une part, c'est un style littéraire qui s'inspire de Horace, tradition satirique. D'autre part, il a un objectif très précis. Partout dans l'écriture d'Argence, il cherche à tourner en dérision le mysticisme. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'est pas mystique, mais en tout cas, il y a un objectif concret de l'écriture, une application de la théorie de l'écriture.
C'est-à-dire qu'il est contre l'irrationnel, contre tout ce qui est irrationnel.
C'est quelqu'un qui a une vision très précise du langage et l'application de l'écriture. Et c'est aussi le phénomène des années 30. Souvent, on dit que dans les années 30, ce sont des écrivains de pré-lumière. Ils ont une approche très individuelle, très individualiste de l'écriture et qui montre qu'il y a un mythe de l'individu, justement. Et ça, c'est justement l'approche personnelle de D'Argence.
J'ai trouvé personnellement, j'espère que vous allez être de mon avis, qu'en lisant ses lettres chinoises, son style est très agréable à lire. Il est facile, il est presque très contemporain. On n'est pas du tout en berlificoté dans des tournures du 18e compliquées. Est-ce que c'est une impression de ma part ou est-ce que c'est réel?
Ah oui, parce que ce n'est pas par hasard que D'Argence est considéré par un certain courant de pensée des Lumières comme un philosophe rationaliste. Donc, c'est son discours, son écriture est très claire. Ce n'est pas par hasard non plus dans l'un de ses ouvrages philosophiques qui s'intitule « La philosophie du bon sens ». Il a beaucoup insisté sur l'art, la logique de Port-Royal, l'art de penser. Donc, c'est tout à fait un art de penser. Et c'est quasiment quelque chose de très sensuel de lire son... C'est comme une peinture, voilà. Il y a beaucoup de sensibles dans cette écriture.
Madame Lou Van Fun, vous avez traduit et présenté ce livre avec la collaboration d'un jésuite, le père Jean-Yves Calvez, que nous avions d'ailleurs reçu à Canal Académie pour son ouvrage « 80 mots sur la mondialisation ». Jean-Yves Calvez était un historien, plutôt spécialiste de la pensée du marxisme. Était-il un grand connaisseur de la Chine? Pourquoi avez-vous travaillé avec lui?
Évidemment, je pense que père Jean-Yves Calvez, il n'était pas sinologue, il n'était pas un pitologue de la Chine, mais je peux considérer que c'est un grand connaisseur de la Chine par ses expériences personnelles. Comme c'est un grand historien qui a voyagé dans le monde tout entier, il a une approche très personnelle du peuple chinois, un respect profond vis-à-vis des intellectuels chinois d'aujourd'hui. Il va parler, discuter avec les universitaires de Shanghai et de Pékin, de savoir quelle est leur vision du monde d'aujourd'hui. Et donc, il est personnellement très marqué par la Chine dès son enfance. C'est la raison pour laquelle il est devenu jésuite. Encore une fois, il est proche du père Ricci. Et surtout, je pense que je voudrais ainsi revenir sur un point, une qualité personnelle et intellectuelle chez le père Jean-Yves Calvez. C'est ce qui fait paraître, c'est le sens de l'humanité. Vous savez que dans la tradition confucienne et la tradition chinoise, l'humanité s'écrit avec une partie de la clé de l'homme avec deux, le chiffre deux, c'est-à-dire que l'échange entre humains. Mais je pense que sans être d'origine chinoise, le père Calvez, il possède tout à fait le sens de l'humanité qui est très cher aux Chinois.
Merci Madame Lou Van Fun. Vous avez encore peut-être quelque chose
à
ajouter?
Ah oui, j'ai oublié de dire qu'en fait, le père Calvez, il est mort le même jour que Boyer d'Argens.
C'est enfin, le même jour, pas la même année.
Le 11 janvier.
Un 11 janvier 1771 pour Boyer d'Argens. C'est quelle année pour le père Calvez?
C'est 2010.
2010. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette auteure, Boyer d'Argens, pour ses lettres chinoises qu'on a tout à fait intérêt et plaisir à lire. Elles sont parues aux éditions des Clés de Brouwer.